Léouli Echragui, genre humain.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Il est sans doute déroutant à écouter et déjà impressionnant à voir. Il, ou plutôt elle, ou plutôt yel, faudra vous y faire. Alors, par quoi commencer avec Léouli Echragui? Peut-être par son visage qui annonce la couleur d'un ciel chinois, samoan et persan. Mais avec des semelles de vent qui pratiquent l'Australie et le Canada, quand c'est pas la France pour cause de résidence. Et puis aussi par sa tête chercheuse d'artiste, commissaire et conseiller-conseillère, scientifique, notamment sur l'exposition « Réclamer la Terre » actuellement au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 4 septembre. Une tête chercheuse au service des savoirs incarnés et du futurisme autochtone dans le grand océan. Vous savez, ce bassin de l'océan Pacifique dont on ne parle presque jamais. Aujourd'hui, en sol majeur, vous emmène très loin de tout ce que vous connaissez, au pays des oiseaux transocéaniques et des êtres symbioses qui peuvent ressembler comme deux coups de bec à un être humain. J'aurais aimé vous dire bonjour en langue samoane, comment on dit ?
Oui, donc à cette heure-ci, on dirait Talofalava, et ça veut dire qu'on marque l'espace entre nous avec de l'amour.
Ah ! Ouf !
Oui.
C'est quelque chose, ça. Alors, c'est vous qui allez nous guider, hein, ça je le sens bien, dans cet univers qu'on ne connaît malheureusement pas assez. Vous allez nous guider pour cet en sol majeur et ça va commencer par de l'électro signé Yaeji. Pourquoi cette chanteuse américaine d'origine coréenne, sud-coréenne?
Oui, donc c'est vraiment en traversant la Corée du Sud, il y a quelques années, que j'ai découvert sa voix splendide avec des rythmes vraiment pas mal aussi. Et en rentrant en Australie à l'époque, je m'étais dit qu'il fallait incarner un peu cet esprit sud-coréen où on sort très tard, on mange tard, on travaille beaucoup. Donc cette énergie frénétique m'inspirait beaucoup.
Thank you.
Leoni Eshragi, où se trouve Apia ?
Apia est un ensemble de villages sur la côte nord de l'île principale des Samoa, dite indépendante, au milieu du Grand Océan. Et c'est sur l'île de Upolu. Et donc, c'est vraiment sur la mer.
Est-ce qu'avec ces sons-là, on serait presque un peu dans l'arrière-pays d'Apia, c'est-à-dire dans la maison familiale de votre grand-mère ?
Oui, et même sur la péninsule où se trouve le Parlement samoan, puisque la péninsule de Mulinu'u est vraiment jonchée dans la baie. Et donc, il y a pas mal d'oiseaux, des frégates, tout ça.
Des poules dans le village.
Oui, surtout des poules. Beaucoup de poules qui ont leur propre pouvoir, qui circulent en tout temps.
Des noix de coco qui tombent.
Oui, des noix de coco qui tombent. Et surtout, il faut surtout se méfier des cocotiers quand on marche sur les sentiers du village.
Et des femmes qui fabriquent ce qu'on appelle le siapou, c'est-à-dire
C'est-à-dire l'étoffe d'écorce, de mûrier à papier, qui est une espèce endémique à l'Océanie, dont on se sert pour créer des tissus, vraiment des tableaux très très beaux et très larges, surtout avant la colonisation. Mais il y a encore des archipels où ça se crée de manière gigantesque.
Cái bản đồ của tuổi thơ bạn sẽ được vẽ như thế nào?
Quelle est la carte géographique de votre enfance?
Donc, plusieurs pays, ce qu'on appelle en anglais les pays autochtones, Banjalang, Yui, Jagara, mais aussi plusieurs années passées sur nos terres ancestrales, aux Isamwa. Donc, c'est vraiment autour de l'océan et des montagnes.
Alors, vous êtes né en 86,
oui.
En Australie, en fait.
Oui.
Hein, et vous êtes, il faut qu'on s'arrête dessus une grosse minute en sol majeur, vous êtes l'enfant d'un métissage assez rare. D'où viennent vos parents ?
Donc, mon père est originaire d'un village en banlieue d'Ispahan, sur le plateau perse, Najafabad.
Donc, en Iran.
En Iran, actuel. Et ma mère est originaire de 4 villages aux Isamwa, notamment d'Apia, de Siumus, de Salelonga et de Leolumwenga.
Et comment ils se sont rencontrés ?
En fait, ma mère est rentrée de l'internat en Nouvelle-Zélande et mon père avait parcouru un peu les îles du Pacifique, Guam, Fidji, Tonga, suite aux troubles, la révolution islamique. Et ses parents,
il a d'abord quitté...
Oui, il était aux Philippines. Il y avait pas mal de jeunes étudiantes iraniens et iraniennes à l'époque. Et donc, ses parents l'ont interdit de revenir.
Au moment de la révolution islamique.
Oui.
Et donc, il arrive en Australie ?
Il arrive aux Isamwa, je pense en 79. Et peu à peu, convainc mon grand-père et ma grand-mère de pouvoir sortir avec ma mère.
Ah oui ?
Oui, il fallait passer 6 mois à essayer d'avoir leur approbation.
L'approbation de la famille maternelle ou...
Des deux.
Des deux familles ?
Oui. Oui.
Alors, en ce qui concerne le village, les villages de la famille et de la branche maternelle, moi, je me suis amusée à découvrir, en fait, que l'île d'Upolu, où vous avez un peu couru, là, au milieu des oiseaux, c'est l'île où l'auteur de l'île au trésor, Stevenson lui-même, est enterré.
Oui, en fait, justement, sur notre montagne clanique, le mont Vaya, qui surplombe Apia. Il est enterré là-haut avec sa femme Fanny.
Il s'est inspiré de cette île pour écrire L'île au trésor.
Je pense que, en fait, la rédaction du livre s'est faite avant qu'ils s'installent tous les deux avec leurs enfants aux Isamwa pour justement avoir une meilleure hygiène de vie. Mais plusieurs livres ont suivi leur installation là-bas.
C'est fou comme c'est réconfortant l'eau de la pluie sur les tôles. Hein, c'est un bruit familier et rassurant pour vous aussi ?
Oui, c'est marrant parce qu'en ville, ici en Australie ou au Canada, si j'entends la pluie comme ça, ça me rassure aussi. Mais bien sûr, on a plus d'isolation. Mais aux îles, c'est rarement isolé. Tout ce qui est toiture, donc parfois il y a des gouttes qui arrivent jusqu'au salon et... Ça me réconforte. Oui.
Alors, si on pousse la porte un peu de l'intimité familiale, entre un père iranien et donc une mère samoane, vous grandissez dans quel mélange de cultures, de langues ?
Justement, mes langues maternelles, paternelles étaient le persan et le samoan. Avant d'aller à la maternelle, dans l'état du nord-est australien du Queensland, où j'ai appris l'anglais et on m'a un peu contraint de ne plus parler mes langues maternelles, paternelles.
Et au fil de votre histoire, de votre parcours, de vos pérégrinations, on va dire, qu'est devenue la culture persane dans votre vie ?
Justement, mon père vient d'une minorité religieuse persécutée, les Baha'i. On en a pas mal souffert au sein de la famille élargie. Mes grands-parents, ma tante ont été assassinés par le régime en 83. Donc vraiment des parias aux yeux de la loi iranienne très stricte actuelle. Mais on a pas mal gardé de la cuisine. Parfois des chants. Mon père lisait beaucoup de poésie en langue persane. En fait, c'est vraiment la cuisine persane qu'on a gardée. Et même, j'ai appris plusieurs plats, des livres de cuisine. Pas de la région d'où vient mon père. Mais ça le fait rigoler.
G comme genre humain.
Vous ai-je présenté Léouli Eshraghi comme une personne non-binaire ? Je pense qu'il faut quand même nous rappeler ce qu'est une personne non-binaire, parce que je pense que le monde entier ne le sait pas encore.
Oui, donc justement, en m'assumant pleinement comme personne queer à l'âge de 13-14 ans, je m'étais dirigé vraiment vers les quatre genres qu'on a dans la culture samoane. Un peu apparenté homme cis, homme trans, femme cis, femme trans. Mais c'est pas pareil, puisque les tâches sont genrées. Et si on s'informe des pronoms, en langue persane, il n'y a qu'un pronom, c'est neutre, et c'est pour tout le monde. Et en langue samoane, il n'y en a qu'un, c'est neutre, c'est pour tout le monde, c'est IA. Mais c'est-à-dire que je résiste à une binarité de genre. Je ne suis pas obligé de me présenter physiquement comme androgyne. C'est vraiment la culture samoane qui m'a informé du fait que je n'étais pas obligé de me changer le corps pour vraiment le cadrer avec le genre que je ressens.
Donc vous ne vous identifiez pas, pour le dire simplement, ni à un homme, ni à une femme.
Oui, c'est ça.
Quand vous dites que dans la culture samoane, il y a quatre genres... Pardon ?
Oui, donc c'est-à-dire fafafine, fafine, tamaloa, fatane. Donc, soit né homme et puis devenu femme, ou né femme devenu homme, ou encore né homme et bien dans sa peau de l'homme, et né femme bien dans sa peau de
donc
femme.
Donc ça, ce sont les quatre genres qui sont reconnus officiellement dans
la même structure. Pas, c'est bien reconnu officiellement et intrinsèquement dans la culture samoane. Et donc, cette vague actuelle de missionnaires évangélistes des États-Unis essaye tant bien que mal d'essuyer tout ça, mais on a quand même une bonne mémoire.
Donc, vous, en tant que personne non-binaire, vous n'avez jamais essuyé de moquerie, de racisme ?
Si. Pas mal dans la société australienne, et même dans la culture samoane actuelle, on va être fier de ses enfants qui sont non-binaires, qui sont fafafine, qui sont fatane.
On va être fier.
On va en être fier par rapport à leur réussite sociale, académique, politique, etc. Mais on va quand même se moquer d'elle. Donc, beaucoup de...
C'est ambivalent.
C'est ambivalent. Et puis, on n'est pas passé par une décolonisation des esprits. On est toujours... en plein dans la colonisation des esprits, des terres, des façons de faire aux Isamoa, tant américaines qu'indépendantes.
Alors, si on met un bec sur cet archipel du Pacifique, on y croise, paraît-il, des manoumas. Ce sont ces petits oiseaux jaunes et blancs avec une calotte rouge sur le dos. Mais là, je crois que je parle du mâle.
Ouais. Manoumea.
Manoumea,
oui.
Voilà. C'est pour mettre une patte, on va dire, sur cette terre. Et pour aller vite, vous l'avez dit plusieurs fois, Léouli, il y a... on va dire une Samoa américaine et puis une Samoa indépendante, dont la devise est « Puisse Dieu être l'assise des Samoa ».
Oui, c'est très lourd comme slogan, on va dire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est vraiment en plein dans l'embrasage de la colonisation. C'est plutôt les artistes de la diaspora samoane qui s'opposent au tout chrétien. Je m'étais fait attaquer pour ne pas avoir invité des prêtres à venir faire des bénédictions au vernissage, aux avant-premières de différentes expositions par le passé. Oui, on a quand même passé plusieurs milliers d'années sans ces églises-là.
Donc, vous revendiquez quoi ? Une liberté de culte ?
Oui, une liberté de culte et surtout de ne pas avoir de culte qui ne soit pas animiste, qui ne soit pas la vénération de nos ancêtres, des esprits, des divinités à même les terres, les lagons, les airs.
Alors justement, ça s'inscrit dans ce mouvement décolonial qui, je pense, vous est cher. J'aimerais qu'on s'arrête sur le chapitre d'histoire qui vous chagrine personnellement, celui de l'évangélisation forcée et celui de la colonisation allemande, états-unienne, britannique, des chefferies samoanes. Oui. Ça commence quand, ça ?
Ça commence au tout début du 19e siècle. Donc en 1830, John Williams, le premier missionnaire de Londres, vient s'installer et en l'espace d'un an, 8 chefferies samoanes passent d'un culte commun à plusieurs cultes. Donc il y a d'abord les protestants de Londres, après les maristes français qui débarquent. Donc vraiment, on devient très divers en termes de culte et surtout des différents villages qui s'opposent. Pour la première fois, on va dire, les mêmes familles à l'intérieur des familles. Donc il y a vraiment une scission, les clans.
Alors, est-ce que l'école sur cet archipel fait son travail de transmission ? Oula !
Ouf ! Fort, hein ? Je dirais que les écoles nous font pas mal de propagande pro-église et pro-acceptation du statu quo actuel. C'est-à-dire qu'on est des îles où tout le monde part.
On dit que les Samoa sont plus nombreux à l'extérieur de l'île que sur l'île elle-même.
Oui, c'est très courant en Océanie, en fait. On est, je dirais, 400 000 ailleurs et 250 000 à travers les deux territoires.
Alors, comment, et j'ose le pourquoi, pourquoi ces identités multiples autour du genre et autour des origines ont orienté vos choix de vie et de vie professionnelle, Léouli ?
Je dirais merci. Je dirais d'abord que en grandissant en majorité en Australie, dans une colonie anglo-saxonne, il n'y avait pas de place pour les personnes racisées comme moi, ou très peu de place pour les personnes à genre autochtone. Donc il fallait se faire une place. Je pense que à partir du moment où on comprend qu'on n'est pas les bienvenus, il faut bien travailler à créer des espaces
et vous
de partage.
Et vous avez bossé. Véritablement, puisque vous avez donc fait le lycée donc en Australie, à 17 ans, vous allez 6 mois au Vanuatu, vous apprenez là-bas le créole du Vanuatu, voilà. Vous y apprenez aussi le français, vous avez une licence en lettres avec mention, vous faites des études autochtones et une mention française, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Étant donné la violence de l'histoire qui est passée par là, et la violence, on va dire aussi, de l'indifférence par rapport à cette histoire, vous avez su que précisément ces identités minoritaires deviendraient votre centre à vous et peut-être un centre de réflexion pour toute la planète.
Oui.
C'est un peu ça la démarche. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis il faut bien comprendre que ces confettis d'empire sont nos centres à nous. On y est toujours en grand nombre, même si je suis très, très épaté de mon séjour en France. L'Europe n'est pas le seul centre. Et il faudrait bien qu'on ait un peu un rééquilibrage des centres à partir desquels on se construit. Donc c'est vraiment dans la démarche de la pluralité des récits que je m'inscris. C'est pas pour causer du mal à personne.
Ah non, au contraire, bien au contraire. C'est juste pour remettre le curseur là où il faudrait qu'il soit.
Oui, j'espère.
Alors maintenant qu'on se familiarise un petit peu avec toutes ces nouvelles boussoles que vous semez sur notre chemin, on va plonger dans l'océan de quelques-unes de vos références phares et accueillir en sol majeur la parole de Billy Ray Belcourt. Ça, c'est une figure qui compte vraiment très fort pour vous. Il se présente, lui, comme un poète bispirituel, c'est-à-dire aux deux esprits, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Un peu la traduction nord-américaine autochtone de cette pluralité de genre qu'on chérit en Océanie.
Et il vient de la première nation crie de Driftpil en Alberta. Donc c'est une bande indienne qui est située sur la rive sud du petit lac des esclaves au Canada. Alors c'est en anglais.
Oui.
Vous allez nous traduire.
It is 2 a.m. on December 17, 2015, and my body, at once slowed from exhaustion and acutely attuned to itself from pain, wakes me up. My upper abdomen is swollen and an ache pulses from that region to my back. My body refuses to remain still in any position, So I paced around across my apartment, trying everything to get short-term relief. Now, this isn't the same kind of pain that comes from bruising or sprained muscles. I'm still trying to make sense of it, but it felt as if my body were protesting, trying its hardest to fold into itself because it couldn't go on like this anymore. It hurt to be in a body. We were never meant to break like this.
La parole de Billy Ray Belcourt dans votre en sol majeur, Léouli Eshraghi, c'est une parole qui va peut-être décontenancer certains de nos auditeurs sur le continent, mais c'est une parole qu'il faut entendre, nous qui sommes les amoureux du genre humain. Que disait-il ?
Et c'est des poésies, surtout à travers celui-ci qu'on vient d'écouter, qui parlent du chagrin d'être à cheval entre plusieurs mondes, mais aussi héritier, héritière des douleurs, des traumatismes intergénérationnels. Donc de la violence des pensionnats, au sacrifice des langues, au sacrifice des bisons sur les plaines, surtout dans le territoire cri de Billy Ray. En fait, cette douleur va se traduire par des ébats multiples, par la pluralité d'amantes, et c'est vraiment une quête de recherche de soi à travers des expériences de déboire. De débaucherie.
C'est à travers l'érotisme qu'il se soigne.
Qu'il se soigne, mais aussi qu'il s'identifie vraiment comme personne meurtrie, colonisée, ayant besoin de guérison profonde.
Alors vous, il y a un recueil de sa plume qui vous a sauvé la vie, dites-vous. C'est le recueil intitulé « Cette blessure est un territoire ».
Oui. En 2016, je traversais une déprime comme beaucoup d'artistes enfants, mais vraiment conscient du poids lourd de tout ce qui pesait sur nous en découvrant à travers des visites en archives des textes hallucinants en termes de racisme par rapport au corps, par rapport au savoir. C'est vraiment pendant mes années d'études doctorales que j'ai pu me défaire un petit peu de tout ce qui était véhiculé auparavant, qui disait qu'on était des sauvages, quoi. Que rien pendant des milliers d'années était valable et qu'il fallait tout concevoir comme le commencement à zéro en 1830.
Donc, c'est alors vraiment... ça, c'est dans des études universitaires que vous
oui.
trouviez cette lecture de votre histoire à vous.
Oui, oui. Et c'est vraiment...
De l'histoire de la communauté Samoa.
Oui, et en comparant et en contrastant avec des lectures de textes sur les peuples autochtones avoisinants ou même lointains, on peut se comprendre... Et surtout, à travers une solidarité intellectuelle vraiment d'aujourd'hui, on peut se donner de la place, se faire de la place, s'entraider.
Et puis une solidarité poétique.
Oui, tout à fait.
Effectivement, c'est la plume de Billy Ray Belcourt qui vous sauve. Vous auriez un petit bout de poème comme ça en tête ?
C'est vraiment quand il parle en fait, du fait de faire l'amour avec quelqu'un jusqu'au point où on est épuisé. Pour arriver à un salut quelconque. Donc c'est vraiment
une transcendance.
À une transcendance, on va dire, oui. Je n'ai que de mots
piégés.
Piégés pour la radio.
Et oui. Comment faire là? Est-ce que vous pouvez passer par la langue samoane à la limite?
Parce oui, que, bon, en fait, je...
pour éviter les pièges. Oui, allez-y,
petit passage en langue samoane. Et justement, j'emploie souvent des verbes assez érotiques en langue samoane, mais la plupart des lectorats ne savent pas ce que ça veut dire. Donc,
et vous en profitez.
Oui, voilà, donc c'est un petit jeu. Donc, cette partie d'un long poème, Tanem Toktokia, traduction, les Lyonga, parle de la hostilité anti-noire et du fait qu'on peut s'imaginer des avenirs non carcéraux. Eyai fa'afanua fa'afuai numera fau. Eyai malamalama awala fau. Olo iyai ni awala fau o mafau fanga mai mamau ese. Olo o inutu inu'u mamotu fau ile tafa ilangi. Elea ise mea ile lola langi lea sa muta fa'amutaina. Elea imo li fa'apapa langi. Elea ise fa'amoemoe ile nano fuanga. Eliai ni tangata i te tonu o nei afu mawhanua.
Maintenant que vous avez fait l'amour avec nous, on ne sait pas très bien comment. Je vais recommander aussi un peu de musique pour se sauver la vie. Hein, ça
oui.
marche pas mal ça aussi.
Très...
Par exemple, Jeremy Dutcher, que vous avez programmé avec un morceau qui s'appelle Ultestacon. Quel effet vous fait-il, celui-là? Il est merveilleux, je trouve.
C'est un grand chanteur qui fait le pont à travers le savoir partagé de ses aînés et à travers les archives de sa langue Wolastoqué.
C'est une langue amérindienne.
C'est une langue autochtone d'Amérique du Nord, vraiment des maritimes.
Et presque disparue.
En fait, c'est en voie de se rétablir. Et cette chanson, cette musique est porteuse d'espoir.
在家里，您用哪种语言来教育您的孩子呢？
À la maison, dans quelle langue bercez-vous votre enfant?
Léouli Eshragi.
Donc, je n'ai pas d'enfant. Mais dans la culture samoane, on partage souvent les tâches parentales. Et donc, ce serait vraiment en langue samoane et en langue française. Ah. L'anglais n'a pas besoin d'aide.
C'est ça. Il faut aller au secours de certaines langues.
C'est ça.
Y a du bébé au programme ou pas pour vous?
Non, pas du tout. mon copain, il est en Antarctique. Donc, déjà qu'il rentre, on va voir.
Alors, tout à l'heure, quand on s'est dit bonjour, vous m'avez dit qu'à cette heure-là de la journée, il y avait évidemment des expressions adaptées et qu'on marquait l'espace relationnel dans les formules hein, avec de l'amour. Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que la conception de l'espace-temps et de l'espace est relationnelle dans la langue samoane, c'est-à-dire le va, l'espace qui nous lie. Et pas que les êtres humains, c'est tout dans l'existence, est lié. Et donc, on va en profiter pour améliorer le lien qui nous unit ou qui va nous unir.
Comment?
En fait, d'aujourd'hui, on fait la bise, mais avant la colonisation, on se touchait le nez et le front et on partageait le même souffle. On inspire et on expire ensemble. Ce que font toujours les Maori de Tahiti, les Kanaka Maori d'Hawaï.
Et ça s'est perdu chez vous?
Oui, et donc j'en ai fait une œuvre vidéo il y a quelques années et on essaye tant bien que mal de rétablir cette pratique.
Mmh. On se dira au revoir en se touchant le bec, hein, c'est
oui.
Promis.
C'est ça.
En tout cas, il y a beaucoup de langues mouillées et des langues bleu-azur dans vos poches. Vous qui vous êtes à un moment donné émancipé de la littérature, hein, j'ai bien compris. Vous y êtes revenu, vous écrivez aujourd'hui. Et donc vous êtes venu avec un poème en langue samoane.
Et en langue samoane, c'est vraiment le titre que j'avais...
C'est tout.
Parce qu'en fait, je m'adresse...
Vous ne l'avez pas traduit en langue samoane?
Non, parce que c'est des choses qu'on connaît. Je m'adresse vraiment à l'Europe, là. Et surtout à ce musée bruxellois.
Le titre de ce poème?
Mo'oe ile fala mata'anga amafofanga papa'alangi.
Qu'on va traduire par?
Pour vous. Dans ce musée, cet espace de diffusion visuelle à l'occidental. Pour toi, dans cette vitrine cage du musée raciste bruxellois, je t'adresse ces paroles que je veux porteuses de salutations. Pour toi, dans cette époque figure de vieux continent déshumanisant, obscur, je te souhaite tout le bonheur du voyage à travers les cieux jusqu'aux présences créatrices d'avant l'humanité. Pour toi, cher ancêtre peuplé de ton corps, pour démontrer notre sauvagerie autochtone, marquée par la littérature, l'orature de notre peuple, nous relions aux ancêtres, toi aussi. Je te prie un avenir proche où tes restes comme ton esprit rentrent chez nous. Plus jamais le spectre de la death drive des peuples pend tout évolué par leur prétendante lumière. Pour toi, un retour au pays natal, tant qu'il en reste dans ce monde traumatisé par les industriels.
Alors, dites-nous un mot de cet ancêtre peuplé dont vous parlez dans ce poème. Vous faites allusion à quoi ?
Donc, en fait, c'est un ancêtre qui pensait aller rencontrer le Kaiser.
En Allemagne.
Puisque... les îles de Sevahi et Upolo étaient colonies allemandes. Et en fait, ils se retrouvent dans un zoo humain, à Berlin, à Hambourg. Ça s'est passé ici à Paris, à Chicago, partout. Et on ne les considérait pas comme des êtres humains. Donc, c'était des huttes banales. Beaucoup de monde perdait la vie durant les mois d'hiver. Et au lieu de l'enterrer, puisque cet ancêtre portait le tatouage traditionnel masculin PA,
qui ressemble à quoi ?
Qui ressemble aux cuisses entièrement couvertes de récits généalogiques et d'attaches justement aux oiseaux, aux roussettes, aux poissons. C'est même pas son corps, c'est sa peau qui est exposée toujours dans ce musée de Bruxelles. C'est une honte, c'est un chagrin profond.
Maintenant, en même temps, il y a quand même un petit projecteur sur cette question de la restitution des biens culturels. Hein, on en a beaucoup parlé sur RFI. Là, quand je vous écoute, Léouli, je me dis qu'on a droit à une sorte de manifeste poétique, mais aussi comme un avertissement, je sens, des autochtones à l'Europe désunie, comme vous dites.
Et pas que l'Europe. Hein. Je m'adresse autant aux colonies de peuplement, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie.
C'est un avertissement ?
C'est pas un avertissement, c'est une prière, je dirais. On peut se reconstruire seulement à partir du moment où ces restes humains rentrent. Même si nos îles s'écroulent sous les eaux qui montent, il faudrait ces retours-là.
Alors vous travaillez aussi comme commissaire d'exposition, je le disais en prélude à cette conversation, et parfois comme conseiller scientifique, faut s'y faire hein, à l'inclusive écriture. C'est le cas en tout cas pour l'exposition « Réclamer la Terre » qui a lieu en ce moment au Palais de Tokyo à Paris et ce jusqu'au 4 septembre. Alors pour qu'on ait juste une petite idée de ce que tente de nous dire cette exposition « Réclamer la Terre », on peut dire que c'est moins une prise de conscience sur la menace qui pèse sur les épaules de notre chère Terre, qu'un cri de ralliement.
Oui.
Notamment autour de l'apport de ce que vous appelez la pensée écoféministe.
Oui.
Je retourne à l'école pendant toute l'émission avec vous. C'est quoi ça, la pensée écoféministe ?
Donc c'est vraiment une pensée intersectionnelle où on va allier féminisme de deuxième, de troisième vague avec cette prise de position écologiste à partir des années 70. Mais là, c'est vraiment, je dirais, une question de place donnée et réclamée, revendiquée par toutes les communautés. Allant des pêcheurs, pêcheuses, aux agricultrices, agriculteurs. C'est vraiment une pensée qui est porteuse d'avenir.
Est-ce qu'il y a une œuvre de ces dispositions ?
Oui, il y a une œuvre, surtout l'œuvre « L'on n'est pas à vendre » de l'artiste non-binaire Mapuche, Sébastien Calfouquet, qui en fait, suite à la constitution, au code de l'eau de Pinochet...
C'était
l'instauration de la privatisation de toute eau au Chili. Donc c'est vraiment l'expérience néolibérale la plus aboutie au monde. Et donc cet artiste revendique l'appartenance à travers l'eau.
Et ça produit quoi comme œuvre ?
C'est très très beau comme œuvre vidéo. L'artiste se met à moitié dans un cours d'eau dans la forêt, suspendu par du cordage très cuir, très tendance, bleu. On va pas vraiment voir son visage. C'est vraiment le fait que le corps soit immergé, soit à même ce cours d'eau.
Vous avez une passion pour les langues, on l'a dit, pour les arts visuels également. On va partager une archive que vous avez intitulée Aoli,
oui,
dont vous dites que c'est une archive samoane et transnationale. C'est assez mystérieux, ça.
Oui, c'est-à-dire que la plupart des familles samoanes sont expatriées, sont dans la diaspora aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Fidji, et en Angleterre, et quelques rugbymen en France. On va aussi concevoir la culture comme éparpillée. L'essentiel pour moi, c'était de rassembler des éléments, des textes, de tables rondes, d'œuvres d'art disponibles sur Internet, dans une même archive, pour justement donner un cadre par lequel lire ou avoir des lectures possibles de cette œuvre d'art numérique. Awaoli, qui veut dire « midi ».
Midi.
Oui.
Oui, alors c'est une œuvre de littérature visuelle, comme vous dites, qui nous vient du futur récent. J'adore. Vous allez nous guider, on vous écoute. C'est pas en langue samoane, c'est en anglais.
Oui.
Pourquoi ?
C'est la deuxième œuvre que j'ai fait en plein confinement. Donc c'était une façon de communiquer avec la plupart des samoanes à travers le monde qui sont, pour la quasi-totalité, anglophones.
Histories held in languages spoken and visual pulsate between layers of bamboo cotton, river reed, floral bark, and synthetic fibers. Kumlines gesture to stellar arrays through sweaty dances, shimmering crystals and salt. Plants and fruits hold collective malama-lama, and back through nine heavens and three earths to Pulotu. Genealogical epics whispered by screen light, speculative possible worlds massaged by tamanu, long sought bearings in lands subsumed, still sacred.
Dans cette œuvre de littérature visuelle, Léouli Eshraghi, dans quel lieu vous retrouvez-vous et comment êtes-vous habillé?
C'est d'abord sur le plateau du centre de l'Australie, qui date de millions d'années, et où les cours d'eau sont saisonniers. Donc je me retrouve dans un espace marécageux, mais à l'intérieur du continent australien, à mettre un tissu brillant, scintillant, bien sûr pas de l'étoffe d'écorce des îles, pour justement parler du fait qu'on vit en diaspora, et on ne va pas avoir ce regard un peu figé sur la culture samoane. On évolue comme tout le monde, donc c'est des gestes que je porte à travers mon corps d'une des danses traditionnelles, le siva. D'habitude, on le fait dans les fêtes. C'est pas du tout une danse sacrée, c'est une danse profane, on va dire. Mais je me retrouve la quasi seule personne samoane à vivre le long confinement australien à l'intérieur des terres, dans une communauté très artistique, très variée. Et donc, pour exprimer cette appartenance à travers les étoffes d'écorce numérisées, dont les images figurent sur les sites web des musées mondiaux, j'ai essayé de créer des gestes comme ça.
Vous appuyez apparemment dans cette œuvre sur la littérature visuelle des Siapo Mamanou et des Siapo Tassina, qui sont, dites-vous, captifs des musées publics. Expliquez-nous tout ça.
Donc, au tout début de la pandémie, j'ai passé trois semaines entières à regarder ces photos d'étoffes d'écorce originaires des îles Samoa. Puisqu'on n'a pas de musée, on a un musée, mais c'est vraiment pas un musée, c'est de salles. La quasi-totalité du patrimoine des îles Samoa se trouve ailleurs. Ici, à Paris, à Berlin, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Stockholm, vraiment partout, à New York notamment. Et donc, très loin des communautés samoanes actuelles. Donc, je pense qu'on souffre pas mal de cette distanciation entre la culture qu'a fabriquée toute une panoplie d'ancêtres. Et donc, c'est vraiment un travail de retissage, on va dire, de lien avec ce patrimoine.
Oui, c'est joliment dit. Qu'est-ce qu'on va faire pour quitter la Terre ensemble, Léouli et Shragi? Je parle joliment, vous allez rentrer chez vous. D'ailleurs, chez vous, c'est où sur la Terre maintenant?
Et donc, je suis à Paris plusieurs mois.
Pour une résidence, oui.
Pour une résidence. Quand je rentre en août à Brisbane, sur la côte est australienne, je vais revoir ma famille élargie, mes amis, ma famille choisie. Et je pense à partir de septembre, octobre, les Samoans vont rouvrir leurs frontières. Je vais pouvoir revoir mes parents et mon Adelphe.
Et votre?
Et mon Adelphe.
Et votre Adelphe, c'est quoi ça?
C'est-à-dire une personne de la même famille.
Un frère?
Pas un frère et pas une sœur. C'est aussi une façon de dire très novatrice en langue française et bien sûr issue du grec ancien.
Ouais. Donc même dans la langue française, vous essayez un tout petit peu de rénover, de rafraîchir, d'emmener ailleurs.
Oui, et puis je pense que je tiens vraiment ça de mon année de 2019 passée à Montréal, où la langue, comme ici, mais on se permet peut-être plus là-bas de créer, de vivre.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc pour se quitter en sol majeur? Est-ce qu'on le fait avec Pierre Quenders, Amour d'été? C'est un Congolais canadien magnifique. Ou bien Flavien Berger avec Bleu sous-marin. Ça, c'est un artiste dont on dit qu'il est hybride, il est français. Et il mêle électro et psychédélisme.
Donc, moi, je préfère Pierre Quenders si possible. Surtout, j'y vais en juillet.
Alors, juste une seconde avant de quitter cette terre, on va justement la confier, cette terre, à une poétesse née dans une communauté inoue, qui a été envoyée toute jeune dans un pensionnat au Québec, mais qui aura réussi à éviter le total déracinement. Je veux parler de Madame Joséphine Bacon.
Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées de celles qui ont partagé, de celles qui accouchent en marchant. C'est eux que j'écris, c'est eux mes poètes. Je porte ma grand-mère sur le dos, mes genoux ploient sous tant de sagesse. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas.
Extrait du documentaire « Je m'appelle humain » de Kim Obomsawin, Joséphine Bacon, dont je me disais qu'elle devrait s'asseoir à la table de ceux qui dirigent si mal le monde.
Tout à fait. C'est une grande figure de littérature tout court, mais vraiment, je dirais, la pionnière de la littérature autochtone francophone au Canada. Et quelqu'un dans la pensée, dans la dans la manière d'être au monde m'inspire beaucoup.
Quand elle veut pour venir s'asseoir dans le fauteuil dans sol majeur. Merci, Léouli et Shragi.
Merci beaucoup.
Voyage rare et très en sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux ou bien encore derrière votre poste. Ça se passe chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, d'ailleurs demain même endroit, même arbre à palabre. On se retrouve autour de David-Pierre Fila. À demain.